Europe Soir Weekend.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Bienvenue dans le débat des grandes voix au cœur de ce 18-20 et en ce samedi 1er mai. Avec nous ce soir, Laetitia Krupa, journaliste politique. Bonsoir Laetitia.
Bonsoir.
Auteur de cette tentation du clown dont nous parlerons, si vous voulez bien, ou demain ou la semaine prochaine. On va acter tout cela et c'est
avec
passionnant.
Plaisir.
Bruno Jeudy, éditorialiste et rédacteur en chef de Paris Match. Bonsoir,
bonsoir
Bruno.
Bonsoir Wendy.
Et Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication politique. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Avec ce déconfinement qui veut relancer la France et les Français vers un monde meilleur, vers plus de liberté et de consommation, le retour vers les territoires aussi, par le gouvernement, on va y venir. Un réveil social en ce 1er mai qui peut se faire sentir aussi dans les intentions de vote. Première échéance avec les régionales. La région PACA tremble avec le RN porté par Thierry Mariani qui s'envole dans les sondages. La rentrée à ce propos et le lancement de la campagne par Marine Le Pen à l'horizon de 2022. Et puisque vous avez vu, lu et entendu cette semaine.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
D'abord, nous étions avec la ministre du Travail il y a quelques instants, avec le retour des défilés, le retour de la contestation sociale. Et en l'espèce, la réforme de l'assurance chômage attendue pour les 1er juillet qui regonfle la mobilisation. On a le sentiment que les revendications sociales ont été étouffées par le Covid et que tout est prêt à redémarrer, à réexploser. Je ne sais pas qui veut s'exprimer là-dessus, Laetitia.
Oui, enfin, c'était une impression, Wendy, parce que pour ceux qui sont concernés par la réforme chômage qui va entrer en vigueur en juillet, je peux vous dire que c'était quand même dans toutes les préoccupations. Simplement, c'est vrai que d'un point de vue de l'actualité médiatique, la couverture était, on va dire, uniquement à 98% consacrée à cette crise sanitaire. Mais bien sûr que beaucoup se préoccupent de cette réforme parce que vous savez bien que beaucoup vont être pénalisées, notamment les femmes, puisqu'elles accumulent souvent des périodes d'inactivité et des petits boulots, et inactivité et petits boulots. Et quand on va recalculer effectivement l'allocation auquel ces personnes ont droit, eh bien, elles vont perdre beaucoup. Hein. Ça va jusqu'à 40-43%.
Alors, donc, elle nous disait le contraire à l'instant, Elisabeth Borne.
Ouais,
rien
enfin,
rien ne bougera au niveau de l'allocation.
Ouais.
Bruno, je dis, mais en tout cas, pour le côté vent social qui commence à remonter, qu'Emmanuel Macron sent d'ailleurs, hein. Son idée de revenir dans les territoires est probablement liée à l'ambiance du moment.
Il y aura forcément un déconfinement des colères et notamment sur le plan social, on le sent. Je ne suis pas sûr que ce soit là que ça se passe. J'ai l'impression que, vous savez, on va quand même rentrer dans la période de la pré-campagne présidentielle et souvent, c'est un moment où les contestations sociales et les demandes sociales sont un peu gelées le temps de la campagne parce que c'est le débat politique qui s'impose et c'est le politique qui prime sur les syndicats. Et on le voit aujourd'hui. J'allais dire, dans les leaders, il y avait presque autant d'hommes politiques que de responsables syndicaux aujourd'hui.
Oui.
Donc, on voit bien qu'on est dans une période où les syndicats ont plutôt reculé sous ce quinquennat et c'est plutôt les oppositions qui ont l'air de vouloir s'accrocher, surfer sur les colères sociales. Je crois quand même qu'on va rentrer dans la période électorale et que c'est le débat politique qui va sans doute plus primer. C'est le pronostic que je fais aujourd'hui. Il sera peut-être démenti à la rentrée, hein, on verra. Mais quant à Emmanuel Macron, oui, il a bien compris qu'il fallait qu'il aille sur le terrain, mais il va aller sur le terrain qu'il se choisit. C'est le terrain de la proximité, des petites villes. Il va se choisir des thèmes et il va aller plutôt écouter les Français comme une sorte... Alors, on ne sera pas dans le grand débat. Ce sera sans doute en juin, plutôt en juillet. Vous aurez le président une fois par semaine qui ira passer deux jours dans une petite ville et il abordera la pêche et l'ostériculture du côté de la Bretagne, l'agriculture.
Bah, donc on y revient.
Alors,
c'est pas le grand débat des Gilets jaunes, mais quand même.
On va avoir ce Tour de France, pas le Tour de France des cyclistes, mais
Philippe.
Le Tour de France de la caravane Macron au mois de juillet.
Philippe Brochevrolet, ça c'est quand même une stratégie qu'ils vont probablement un petit peu mettre en avant aussi, lui et son gouvernement et ses ministres.
Oui, la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est de dire qu'en gros, le Covid est derrière nous, donc on n'en parle plus et on va à la reconquête du territoire, comme une campagne électorale classique en présidentielle. Donc c'est vraiment l'idée. Après, est-ce que c'est faisable, praticable, réaliste? Les médecins disent que non. Lui aimerait penser que oui, et ça va être un peu l'épreuve du feu. C'est-à-dire, on va voir si, effectivement, même en ne suivant pas les recommandations des médecins, on peut vraiment laisser le Covid derrière nous et recommencer une vie, on n'ose pas dire normale, mais disons une vie politique normale au moins. Voilà.
Après, ce sera adapté, hein, il me semble, avec les gestes barrières.
Respecter les gestes barrières, voilà, j'espère bien.
Tout sera adapté.
C'est plutôt le fait que la campagne ne sera pas, à mon avis, audible. si on est obligé de reconfiner dans 2 mois.
Mais il ne va pas faire des meetings, Philippe. Il ne va pas faire des meetings. Il va faire campagne sans être candidat déclaré. C'est-à-dire qu'il va retourner en province.
Il va discuter avec les Français.
C'est l'hypocrisie présidentielle traditionnelle. C'est-à-dire le président sortant dit toujours « je ne suis pas candidat ».
Nicolas Sarkozy faisait carrément des meetings. Hein, ce qui
je pense qu'il va respecter les gestes barrières. Je pense bien qu'il ne va pas faire de meetings. Je dis simplement que cette jolie idée d'aller faire une campagne traditionnelle à la papa, en faisant le tour du territoire et en espérant que ça se passe bien.
Mais qu'est-ce qui va arriver, selon vous, Philippe ?
Il peut y avoir un reconfinement dans 2 mois, il peut y avoir plein d'autres choses qui arrivent. Et ça n'est pas improbable.
Ah, mais il y a urgence.
L'Élysée nous vend l'idée qu'on est sorti du Covid depuis un an.
Le calendrier qui a été choisi.
Parce qu'il y a de la vaccination.
Le calendrier qui a été choisi.
En juin, on y va tous.
Ça ne suffit pas, la vaccination. Aucun pays ne l'a fait.
Le calendrier qu'a choisi le président, c'est le calendrier d'un président qui veut en finir vite avec le Covid, ouvrir une autre page qui est la page politique et la page de la présidentielle. C'est pour ça qu'il prend le risque d'ouvrir, alors qu'on a un taux d'incidence de 300, qui sera peut-être de 250 dans 15 jours, qui est encore supérieur à 400 dans 10 départements. Probablement que dans 15 jours, il n'y en aura plus en dessous de 400. Il n'empêche, on est à des chiffres très élevés. Et donc, on va apprendre, on va continuer à vivre avec des chiffres très élevés, mais avec les commerces ouverts, les cafés ouverts, les restaurants ouverts.
Mais t'y accrois pas.
Moi, c'est vrai que quand j'ai lu cette interview d'Emmanuel Macron, vous avez raison, pour ces critères-là, je me suis dit, bon, taux d'incidence inférieur à 400 infections pour 100 000 habitants, on est d'accord, mais si, par exemple, dans certains départements les plus tendus, on sait qu'il y en a une petite dizaine, si on n'en respecte pas ces conditions, que va-t-il se passer ? Parce qu'il s'est bien mouillé, Emmanuel Macron, sur les réseaux sociaux, à balancer des images tous les jours, avec uniquement des dates. Vous savez, c'est très bien fait, hein, sa petite campagne de communication digitale, mais là, vraiment revenir en arrière. Hein, oui. Non, mais vous imaginez, Wendy, il nous a dit les dates, les 3 étapes, etc. Et dire, finalement, non, en Ile-de-France, tiens, on n'y est pas. Bon, on va pas
les négociations et les rencontres avec les partenaires sociaux qui arrivent.
Objectivement, ils ont regardé, hein, ils ont les modélisations et tout ça. C'est calculé pour être en dessous de 400, y compris la Seine-Saint-Denis, qui est aujourd'hui encore à plus de 500. C'est le seul département. Et en fait, dans 19 jours, le calcul est fait que normalement, tout le monde sera en dessous de 400.
Et si jamais ?
Ah ça, on verra.
Ouais, vous allez voir.
En tout cas, il y a urgence politique à agir. Aujourd'hui, Marine Le Pen était à la fois en meeting virtuel et près de la statue de Jeanne d'Arc pour son dépôt très ritualisé de gerbes au pied de la statue de Jeanne d'Arc. Donc, elle va redonner une cadence à un an de la présidentielle et avant les régionales et les départementales.
Bon, cela dit, ça aide plutôt Emmanuel Macron, parce que le rêve d'Emmanuel Macron, c'est d'être au deuxième tour face à Marine Le Pen. Mmh. C'est sa configuration la plus favorable. S'il est face à Xavier Bertrand, c'est très compliqué. S'il est face à un candidat de gauche, qui ne paraît pas l'hypothèse la plus probable, c'est très compliqué. Donc Marine Le Pen, ça va, parce qu'il espère avoir son socle solide de 20-25%, passer le premier tour et puis le deuxième tour, le rafler sur un front républicain ou une logique, en tout cas, de ce type. Donc oui, elle a aussi intérêt à être au deuxième tour. Donc si vous voulez, il y en a deux candidats qui ont intérêt à jouer l'un contre l'autre et à donner le rythme de la campagne. Et d'autres qui vont essayer de perturber un petit peu ce jeu entendu entre eux deux, sachant que l'immense majorité des Français ne veut pas de ce duel. Donc c'est une situation qui est assez tendue malgré tout.
Et c'est
normal qu'elle le joue.
Et elle reprend des couleurs dans les sondages, Marine Le Pen. On va s'arrêter un peu sur la situation et sur son empreinte et son discours politique. Après Édouard Philippe, c'est elle que les Français aimeraient voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir. C'est le baromètre Kantar One Point par le Figaro Magazine. Avec 34% de ses opinions favorables, elle est en augmentation. L'image un peu plus noir que nous décrivait il y a quelques semaines Frédéric Dabi, est en train de s'estomper au bénéfice, manifestement, de celle qui va quitter la présidence du Rassemblement National, Laetitia Krupa, et qui veut refaire ses preuves dans cette stratégie de normalisation du parti.
Oui, pour l'instant, c'est aussi la preuve criante que, franchement, l'opposition à Emmanuel Macron est complètement dévastée. Quoi. Enfin, je veux dire, de toute façon, vous avez raison, Philippe, il en fait sa concurrente numéro un, et elle le fait également. Donc, que finalement, les Français...
Elle dit qu'elle sera présidente, hein, déjà,
oui,
en 2022.
Que les Français viennent à la plébiscité aussi, hein. D'une certaine manière. Il n'y a rien d'étonnant. Si vous voulez, on vous propose chocolat vanille. Vous prenez quoi, Wendy ? Enfin, franchement, oui. Enfin, pour moi, il n'y a aucune surprise.
Chocolat.
Attendez, on est encore très loin. Et honnêtement, il me semble que le premier tour sera beaucoup plus surprenant que pour l'instant, il ne se présente. Et pour l'instant, dans tous les sondages, on ne l'écrit.
Oui, donc attention à ne pas, en effet, binariser cette élection. Mais quand même, on va retenir quelques aspects de la journée pour Marine Le Pen, qui a lancé cet appel à la jeunesse, Bruno, jeudi. Alors, elle propose d'augmenter l'activité des jeunes en France avec, pour toute personne moins de 30 ans, qui créera son entreprise, une dotation en fonds propres égale à son propre apport, une exonération totale d'impôts sur les sociétés et d'impôts sur le revenu sur 5 ans sur tout le territoire. Elle s'adresse aussi aux jeunes familles avec les gardes d'enfants à domicile 100% déductibles, un prêt public plafonné à taux zéro pour les couples. Elle est dans cette entreprise de séduction, sachant que les sondages, aux yeux des jeunes et de Marine Le Pen, sont très confortables pour la candidate du RN. 35% des 25-34 ans pourraient voter pour elle ?
Oui, c'est vrai que déjà, la fois dernière, une partie non négligeable des jeunes avait voté pour elle, également aussi pour Emmanuel Macron. Ils se disputent un peu cet électorat. Il y a aussi Jean-Luc Mélenchon, donc on sait que c'est un segment de la population qui est assez disputé. Traditionnellement, le Front, il fait plutôt des bons scores, comme il fait des bons scores dans les classes populaires. Il ne faut pas se tromper, peut-être cette présidentielle-là, plus que les précédentes, la jeunesse va être au centre des discours des candidats. On sait aussi qu'Emmanuel Macron va beaucoup aller sur ce segment de la population. Donc oui, ils vont se le disputer. Est-ce que ça les fera voter ? On verra, parce que
on voit bien qu'aujourd'hui,
il y a aussi l'enjeu d'aller voter déjà, ce qui est bien sûr. En France, il y a une tendance lourde et on la décryptera avec les régionales, les départementales. Le deuxième tour des municipales, les gens ne sont pas allés voter, pas uniquement à cause de la crise sanitaire, je le redis. Le deuxième tour des législatives, c'était déjà à peine 50% de votants. Donc il y a une tendance lourde qui s'installe en France sur ce terrain-là. Et évidemment, les candidats, Marine Le Pen, c'est la première à essayer d'aller sur ce terrain-là, vont essayer de motiver, mobiliser les jeunes, au moins les jeunes qui sont sur leur tendance politique. Donc oui, Marine Le Pen, elle est méthodique. Oui. Hein, de toute façon, c'est sa troisième campagne présidentielle. C'est quelqu'un qui sait faire de la politique, Marine Le Pen. Moi, je pense qu'à son gros handicap, ça reste la compétence politique et la crédibilité, ça va être sa grande difficulté, et son isolement politique, parce qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, elle nous met Bardella le jour A, elle nous met Thierry Mariani le jour B, et elle a déjà fait de Jean-Paul Garot son ministre de la Justice. Mais derrière, il n'y a rien d'autre, ça va être aussi sa grande difficulté, parce que peut-être qu'il y a une porosité avec les électorats de droite, ça reste encore vraiment à démontrer, mais pour l'instant, il n'y a pas du tout de porosité avec les leaders de la droite, dont on dit que certains pourraient éventuellement rejoindre Marine Le Pen, c'est loin d'être fait.
En tout cas, elle parle aux jeunes avec ses meetings virtuels, ce déploiement sur les réseaux sociaux de sa campagne, Philippe Morochevrelet, clairement, stratégiquement.
Oui, elle parle aux jeunes, elle bénéficie d'un effet de nouveauté et de dégagisme dont Emmanuel Macron a bénéficié en 2017. Cette fois-ci, il est plutôt de son côté à elle. Elle ne la ramène pas trop, elle dose bien ses interventions. Sur le lien avec la droite traditionnelle, je ferai remarquer ce tweet d'Éric Ciotti qui l'a enlevé assez vite. Hein, et qu'on a quand même tous bien
Qu'est-ce
vu.
Qui nous différencie du
Qu'est-ce qui nous différencie du Rassemblement National ? Pas grand-chose finalement. Puisque
l'art de gouverner,
l'art
c'est ça
de gouverner, voilà.
Il n'a pas dit pas grand-chose.
C'est vous qui avez ajouté la parole.
Voilà. Moi, si je lis ce tweet, je me dis que c'est un tweet qui dit on pourrait très bien gouverner ensemble, simplement on doit avoir la prééminence parce que nous, on a une expérience, on sait gouverner. Je le vois plutôt comme ça. D'ailleurs, c'est parce que ça peut être compris comme ça qu'il l'a enlevé très très vite, Éric Ciotti. Là, pour moi, entre l'électorat ou les élites LR et les élites RN, il y a l'épaisseur d'une feuille à cigarette. Ils peuvent gouverner demain ensemble. Ça s'est vu dans d'autres pays en Europe.
Je ne crois pas.
Pas en région provençale.
Au niveau local, il y a certains rapprochements. Mais effectivement, si on imagine Marine Le Pen gagnante...
Où, Laetitia, y a-t-il rapprochement aujourd'hui ? Il n'y a pas.
Tarn-et-Garonne.
Il n'y a pas. Aux dernières municipales, on avait annoncé partout, éventuellement, des deuxièmes tours. Il n'y a pas eu. Peut-être que c'est même une surprise.
Jamais eu cette...
Pour l'instant, c'est même peut-être une surprise.
Là, on est quand même dans un front républicain anticipé, là, y compris...
Pour l'instant, ça tient.
La région provençale Côte d'Azur, oui.
On est dans la politique fiction complète, mais imaginez Marine Le Pen gagnante en 2022. Vous pensez que beaucoup vont refuser ? Oui, mais beaucoup accepteront aussi le poste.
Marine Le Pen gagnante, c'est déjà une forme de tsunami politique, donc on ne sait pas du tout ce qui se passe, derrière. Mais moi, je vous dis qu'aujourd'hui, les élites LR, pour l'instant...
On prend beaucoup de paris en ce moment. On fait le pari que l'épidémie s'arrêtera, ce qui est juste... Enfin, pour moi, à titre personnel, dans mon opinion, je trouve que c'est une fiction absolue. Après, on a la deuxième fiction qui est de dire le Rassemblement National ne gouvernera jamais. on a plein d'exemples en Europe qui montrent qu'au contraire, l'extrême droite est tout à fait prête et capable de gouverner. Donc, ouais. Moi, je vois,
l'extrême droite a très peu
c'est
gouverné.
C'est un pari sur un pari sur un pari.
L'extrême droite a très peu gouverné ces dernières années en Europe.
Je pense qu'on n'est pas à la peine d'un cataclysme.
Elle a très peu gouverné en Europe ces dernières années.
Oui, mais elle a quand même gouverné.
Très peu.
Non, mais là, on se rassure, vous avez raison, Philippe. J'ai l'impression, moi, je pense qu'on n'est pas du tout à l'abri d'un cataclysme. Il suffit de voir l'état des troupes. Hein. Les troupes, quand je dis les troupes, c'est les Français. Mmh. Hein, c'est le moral, c'est la défiance.
Et de leur manifeste en valeur de
Les troupes aussi ne vont pas très bien.
Exactement, les fantassins.
Les troupes aux cheveux gris, vous voulez dire, voilà. Parce que c'était quand même bien traité.
Ça va compter, tout ça, dans un rendez-vous, on le sait, présidentiel, d'un homme, d'une femme et de son peuple, l'État, et vous avez raison Philippe, on en sera où de cette sortie de la crise sanitaire. La défiance n'a jamais été aussi grande, on cesse de le répéter, je sais, ça devient impensif, mais c'est quand même un élément fondamental à prendre en compte dans un vote, dans un rendez-vous aussi important qu'une élection présidentielle. Donc encore une fois, vraiment, mais c'est impossible de savoir ce qui va se passer, impossible.
Alors, j'aimerais que vous réagissiez aux mots de Jean-Marie Le Pen dans Le Point cette semaine, très bonne interview par notre consoeur Géraldine Vosner. Elle rappelle qu'il y a 19 ans, le 1er mai 2002, nous étions 1 million à déferler dans les rues du pays pour dire non au Front National dans l'entre-deux-tours présidentiel. Et le père de Marine Le Pen confie et confesse qu'il ne pouvait pas gagner parce que le rejet était trop important à l'époque. Il salue sa fille, qui pourtant l'a écartée, mais il la salue en considérant que sa stratégie de dédiabolisation et de normalisation a clairement contribué à renverser la tendance. Ces mots très doux, j'allais dire, du père à fille sont assez rares. Bon,
que de chemin parcouru par Jean-Marie Le Pen, qui traduit dans les mots la montée du Front National, puis du Rassemblement National ces dernières années. C'était il y a 20 ans, ce fameux défilé fameux défilé du Front Républicain, au fond, contre Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui, entre-temps, a quitté le Front National, s'est fâché avec sa fille et qui s'est réconcilié avec elle. Réconcilié avec elle quand même il y a quelques années, mais enfin qui continuait à lui mettre des bâtons dans les roues.
Ouais,
et là on voit bien que il en est à saluer la dédiabolisation. J'allais dire peut-être que la prochaine interview ce sera la banalisation, mais clairement c'est plutôt une bonne nouvelle pour Marine Le Pen, parce que déjà que son père maintenant ne lui crache pas dessus pendant les campagnes électorales, c'était pas arrivé quasiment depuis 2012.
Il tape aussi bien le patriarche Le Pen, il tape aussi bien sur Macron que Xavier Bertrand, il les renvoie dos à dos en disant c'est deux personnes qui ne suscitent pas un attachement très fort de la part des Français. Donc il a l'air quand même de considérer qu'il y a un petit match XBEM en préparation.
Ouais. Alors, Xavier Bertrand, Emmanuel Macron.
De trouver un parti aux initiales de Xavier Bertrand, quand même. C'est pas évident. XB,
il est quand même particulièrement méchant et mauvais sur Xavier Bertrand, dans sa définition.
Oui,
même plus qu'Emmanuel Macron, je trouve. Hein, parce qu'il attaque le physique, il attaque sa voix, il attaque son charisme.
Enfin, c'est une habitude chez Jean-Marie Le Pen, c'est pas nouveau. Il en a même fait son fonds de commerce tout au long de sa carrière.
Moi, cette interview, exactement, franchement, on est tous là. Je sais pas la lire, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt.
Le soir avant de m'endormir.
Aucun intérêt. Enfin bon, c'est le vieux, le vieil oncle là qu'on a mis à part parce que ses idées ne sentent pas bon. Et puis
mais moi je retiens quand même. Nous n'étions pas prêts. Aujourd'hui, nous sommes prêts. Et il relaie une petite musique ambiante.
C'est ce que vous avez dit, Wendy. Ouais. La seule chose à relever, c'est ce qu'il dit sur sa fille, qui est plutôt la tonalité est plutôt nouvelle
par rapport à sa vie.
Par rapport à ses dernières,
À la fin de la vie, on parle de ses enfants.
Une histoire personnelle.
En général, vous reverrez dans la vie, à la fin de sa vie, on
devient
un peu plus.
Elle va nous raconter quelque chose, Laetitia Krupa. Nous sommes le 1er mai et vous vouliez parler d'une femme qui bosse, qui travaille, une consoeur.
Ah oui, non mais oui, et oui, Vanny, je ne voyais pas le lien là.
Non,
bien sûr,
il n'y a aucun lien.
Parce que le vieux schnock est
d'accord.
Oui, bien sûr, je voulais vous parler de Natacha Polony. Je suis ravie qu'elle.
Rien à voir, effectivement.
Il y a un petit lien politique.
Je suis ravie que ce jour du 1er mai, elle a tweeté qu'elle souhaitait rester à son poste, qu'elle n'allait pas démissionner et qu'elle n'allait pas être une énième femme à la maison, comme le souhaiteraient certains. Pourquoi, Wendy ? Parce que, tout simplement, son mari, Perico Legas, qui est lui-même journaliste à Marianne, je rappelle qu'elle est directrice de la rédaction de l'hebdomadaire, eh bien, son mari a décidé de se lancer en politique et de se présenter en candidat en Indre-et-Loire sur la liste du ministre MoDem. Marc Fesneau.
Ça ne vaut pas de se mettre en retraite de la vie journalistique.
Voilà,
quand même,
il est déjà conseiller municipal. Elle. Donc, si vous voulez, elle a dit bon, ça va, je démissionne pour ne pas gêner mon mari. C'est ça qui se présente à une élection locale, les femmes à la maison. Bon, ok, très bien, c'est local. Mais je vais vous dire un truc, Wendy. Moi, je trouve que ce n'est pas un argument suffisant. suffisant. C'est pas parce que c'est une petite élection, un petit mandat local qu'il ne faut pas se poser la question. Et évidemment, il faut remonter à Béatrice Schoenberg qui avait quitté la présentation du 20h de France 2 parce que son mari, Jean-Louis Borloo, avait été nommé au ministère de l'économie, le CAC Ukraine, Kouchner,
etc. Bien sûr, mais là l'exonère de ses fonctions.
Non mais on est d'accord, c'était des hautes fonctions, mais je vais vous dire, quand bien même en 2021, qu'une femme reste à son poste parce que son mari occupe, j'en sais rien moi, des fonctions qu'on peut imaginer au plan national, ne me chagrinerait pas, ne me gênerait pas, et au contraire, oh, ça va, ça suffit, ça suffit,
là,
toujours
oui,
ce procès.
Là oui, mais voilà. Si vous êtes femme du Premier ministre, vous ne pouvez pas être rédactrice en chef d'un
peut-être
journal.
Peut-être du Premier ministre, mais à d'autres fonctions, quand je vois Léa Salamé qui s'était mis entre parenthèses, parce que c'est la formule consacrée quand son conjoint s'est lancé dans la campagne des Européennes.
Même, hein. Il était quand même tête de liste aux Européennes.
Ça se discute, Bruno, moi je suis pas d'accord.
Non, c'est au cas par cas.
Je ne vois pas, je ne vois pas
pourquoi. Vu les résultats, il aurait pu s'abstenir d'être tête de liste et laisser Léa Salamé.
Exactement, je ne comprends pas. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse.
Et Béatrice Schoenberg aurait très bien pu rester présentatrice. Et son mari renoncer à la politique, pourquoi pas.
Ah oui, dans le sens, mais d'accord, oui. Bruno, jeudi.
Non, je voulais parler, moi, d'un petit coup de cœur.
Mais allez-y, on confirme. Je pensais que vous vouliez me parler de l'avenir. Je pensais que vous vouliez me parler de l'avenir politique de Perico Legas, qu'on aime beaucoup ici.
Perico Legas. Non, il s'est tombé.
Il continuera ses chroniques.
Ce qui est assez drôle, c'est qu'il soit avec un pro-européen, lui qui est anti-européen.
Il a quand même voté Nicolas Dupont-Aignan la dernière fois.
C'est le cas sous les marches.
Vous m'avez dit qu'il n'est pas modem, qu'il n'est pas République en marche, qu'il aime bien Marc.
Ouais, non, mais ça doit être le cassoulet, ça doit être le cassoulet des marcheurs.
Bon. Votre coup de cœur, cher Bruno.
Moi, mon coup de cœur, c'est ma lecture de la semaine. C'est vraiment un bon livre. C'est le livre de Nathalie Saint-Cricq, son premier roman.
Oui. Hein.
Et c'est, le titre, c'est une phrase de Georges Clemenceau à son dernier amour. « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir ». Georges Clemenceau, pour les 6 dernières années de sa vie, il est retraité, il a été chassé par les parlementaires il y a juste 100 ans d'ailleurs du pouvoir, et il se retire entre Paris et la Vendée, et il y a une éditrice qui vient le voir, une femme de 41 ans, il en a 82 à l'époque, elle vient le voir pour lui faire écrire un livre, et c'est un coup de foudre, mais c'est un amour épistolaire. Ils vont s'écrire quasiment 600 lettres chacun pendant lui ces 6 dernières années de sa vie, et c'est un, j'allais dire, moi j'adore le tigre, hein. Et oui. C'est le surnom de Clemenceau. Et franchement, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas de lui. On connaissait l'homme à femme, mais on ne connaissait
amour
pas le côté romantique, cet amour
vous
platonique
vous
des dernières.
Du livre de Nathalie.
Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir.
C'est joli. Merci Bruno. Je dis Philippe Moreau-Chauveau, voilà,
on
termine avec vous.
Rapidement, une tribune qui va bientôt paraître, signée par le collectif Du Côté de la Science, qui vulgarise les enjeux relatifs au Covid-19, avec École et Famille oubliées, qui travaille plus sur la question du Covid dans les écoles. Ils ont fait une tribune simplement qui n'est pas encore parue, donc c'est une petite preview que je vous donne, mais
d'accord,
pour rappeler juste des faits scientifiques. 26 000 nouveaux cas par jour en France en moyenne, 6 000 patients en soins critiques. Mm-hmm. Comme l'a dit Laetitia tout à l'heure, on a un taux de reproduction qui est assez élevé, qui est plutôt de... Si on estime que le variant anglais arrive et devient majoritaire, il va être de l'ordre de 1,3, peut-être plus, on ne sait pas. Et puis, on a des variants brésiliens, sud-africains très très présents, jusqu'à 23,5%, 25,3% pardon, en Haute-Saône, donc ça se développe. Il ne parle pas du variant indien encore, mais ça va venir. Et il s'inquiète simplement du fait qu'on fasse un déconfinement sans aucun critère sanitaire. Et ça paraît dingue, en fait. Voilà. Et
le il taux d'incidence
tous
uniquement,
les faits.
Effectivement.
Mmh. Il rappelle juste des faits scientifiques. On n'est pas du tout dans la politique. Mmh. Du tout. Et ils disent, par exemple, j'entends la petite musique, donc je me dépêche, 400 sur 100 000, le critère dont parlait Laetitia tout à l'heure. Nos voisins allemands, ils sont à 100. Les Portugais sont à 120 pour les seuils d'alerte. Et l'Union européenne s'était donnée comme seuil d'alerte 50, pas 400.
Ouais. Bah, écoutez, merci pour ces chiffres. Vérifié et scientifique. Philippe Moreau, Chevrolet, cette tribune à la clé. Laetitia Krupa, on se retrouve demain. Bruno, jeudi, de Paris Match. Merci beaucoup et à demain, chers amis.